France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
On va manger des fraises.
Dans la région, on l'appelle le diamant rouge. Un joyau cultivé à Carpentras depuis 1882.
La première fraise en France est arrivée du Chili à Plougastel.
Dans ce jardin suspendu, la gariguette s'épanouit. C'est la fraise préférée des Français.
Là, vous avez de la pleine terre et ici, vous avez la même mara, mais ça, c'est du hors-sol. Ça n'a rien à voir, c'est un goût d'eau.
Ah oui, effectivement.
Voilà, on va faire une petite charlotte aux fraises,
leur dessert favori.
Avec les différentes variétés, vous allez pouvoir trouver des fraises jusqu'en novembre prochain, si tout se passe bien.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. La fraise, c'est la pleine saison et c'est l'un des fruits préférés des Français. D'ailleurs, connaissez-vous quelqu'un autour de vous qui n'aime pas la fraise? Elle est universelle, elle se déguste de mille manières et elle a même une place de choix dans notre pâtisserie. On vous raconte ce fruit, on le cultive et on le cuisine avec nos invités et nos chroniqueurs du jour. Céline Maguet, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien Céline, vous avez votre ronde serviette dans notre émission et vous publiez votre nouveau livre qu'on attendait impatiemment. La bonne cuisine des fruits, je le brandis, c'est aux éditions First avec les très belles photographies de...
Quentin Tourbèze,
il est vraiment chouette. Hein.
Merci,
il y a il y a une spontanéité, un naturel, une gourmandise évidemment qui se dégage de vos photos qui sont très souvent prises d'ailleurs avec la lumière des saisons. C'est vraiment un très très chouette bouquin. C'est la suite d'ailleurs de La bonne cuisine des légumes paru en 2022. Et il paraît exactement ce livre, La bonne cuisine des fruits, ce jeudi, c'est bien ça?
Ce jeudi 12 juin.
On peut annoncer que la veille, vous allez faire une très belle dédicace à Paris. Céline, vous nous en dites plus?
Une dédicace au genre urbain, la librairie du genre urbain à Belleville, à Paris, mercredi à 20h.
Allez-y, vous ne le regrettez pas. Figues, abricots, cassis, vous égrenez une trentaine de fruits au fil des saisons et vous les passez à la casserole en 100 recettes, de très très belles recettes. Et la fraise a évidemment voix au chapitre avec de belles recettes à la clé que vous avez spécialement cuisiné pour nous avec beaucoup de générosité. Merci d'avance, chère Céline. Zazie Tavitian, bonjour.
Bonjour.
On va voir avec vous que cultiver des fraises de pleine terre en bio, c'est plutôt un sacerdoce.
Oui, c'est pas simple. Et c'est Maëlys Ferré qui cultive ses fraises en Savoie, en pleine terre, en bio, que je suis allée rencontrer, qui va nous raconter tout ça.
Yes, on va se régaler. Quelle est l'histoire de la fraise? Comment s'est-elle enracinée en France? Comment s'est-elle fait aussi une place au soleil dans notre pâtisserie française? On en parle avec notre historien maison Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, résultat des courses, comment fut votre quête?
Oui, il sera question d'un certain Amédée François Fraisier, d'Antonin Carême,
absolument.
Donc toute une galerie de personnages, Jacques Cartier aussi, donc beaucoup Fraisier, de choses à raconter.
Fraisier qui a ramené des fraises.
Ah oui.
Et
oui.
Celui dont le patronyme a un rapport avec son métier, on appelle ça comment cette vigueur de style?
Aptonyme, c'est pas ça.
Un aptonyme, ouais, c'est bien ça. Vous avez des questions sur la fraise ou une recette à nous suggérer? Réagissez en direct dans notre émission sur franceinter.fr ou en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com et retrouvez tous les contenus de nos émissions, nos infos, les très belles recettes de Céline Maguet, nos adresses, nos podcasts, tout ça c'est sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Comme chaque semaine ou presque juste avant, notre menu du jour à base de fraises, une petite gourmandise à déguster à l'aveugle. Et là je vois les mines réjouies de Céline, de Zazie, de Loïc, parce que vous avez au moins deviné l'identité du produit?
Oui, c'est une pâte de fruits.
Bravo Zazie. Alors maintenant, attendez, ça va quand même se compliquer.
C'est facile, ça.
Ça va se compliquer un petit peu parce que, déjà, vous n'avez pas le droit de tricher puisque je peux vous dire que vous avez des couleurs différentes et ces couleurs correspondent à autant de parfums. Mais pire que ça, chacune des pâtes de fruits que je vous ai attribuées comporte un double parfum. Jetez-vous à l'eau.
Citron. Loïc. Citron.
Alors, c'est intéressant. Il n'y a pas de citron, mais il y a de l'acidité.
Ah, merci. C'est indulgence. Du coin? Non.
Non.
C'est intéressant aussi.
Non, fiez-vous peut-être à cette couleur que vous pourriez décrire à nos
abricot.
Auditeurs et nos auditrices.
Abricot.
Bravo.
Abricot,
boosté par un autre fruit qui apporte de l'acidité, mais qui n'est pas un agrume.
Alors là,
on vous laisse chercher.
Rhubarbe, non? Enfin, j'ai pas goûté, mais je devine. Fruit de l'acidité.
Je serais vexé, là.
Alors moi, personnellement, c'est rhubarbe poire, je pense.
Non, mais attendez.
J'ai écrit La bonne cuisine des fruits, quand non, même, François Régis.
Vous avez triché, surtout.
Non, je n'ai pas triché.
Ah, pas triché, non.
Poire, rhubarbe, là, ça vaut un...
Bravo. Oui.
Merci.
Parce que c'est poire rhubarbe dans le mille. Et ça, ça va faire plaisir à la créatrice de ces pâtes de fruits parce que vous êtes vraiment plein pot dans la poire et la rhubarbe. Vous aimez ou pas, Céline?
Ah, c'est marrant parce que c'est un petit, une sensation de loukoum aussi.
Oui.
Pas uniquement pâte de fruits.
Ah,
ça rappelle le loukoum. C'est très bon. Très très bon.
Il y a une petite coque un peu croquante et à l'intérieur c'est très fondant et intensément fruité. Je vais vous dire pourquoi c'est intensément fruité. Zazie.
Ah, je pensais que j'allais pas y passer.
Bien sûr que si.
Moi, elle est d'une couleur, déjà je peux la décrire un peu framboise.
Bravo.
Et
framboise.
Il y a de la framboise dedans. Ouais. Et après, j'avais envie de dire violette, mais...
Alors, écoutez, alors là, vous êtes assez forte. C'est pas facile, autant vous le dire, parce que nous, on a joué à l'aveugle avec Laurent Thomas, ma réalisatrice, Fabrice Rivaud qui prépare l'émission avec moi. Il y a quelque chose de floral qui, effectivement, pourrait faire penser à la violette, mais c'était très dur, on ne l'a pas trouvé. C'est le litchi.
Ah ouais.
Qui apporte ce côté un peu rose. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
Framboise, litchi pour Zazie. Céline, poire, rhubarbe. Et Loïc, abricot, fruit de la passion.
Oh, non, je l'aurais pas vu.
Pâtes de fruits intensément fruitées, parce que ces pâtes de fruits sont préparées artisanalement à partir de purée de fruits. 100% fruits, sans aucun ajout de sucre. Vous avez juste cette petite coque de sucre semoule, mais à l'intérieur, c'est du pur fruit, et c'est des purées de préférence française, à l'exception de quelques fruits dits exotiques, hein. Le litchi, il n'est pas français, le fruit de la passion n'est pas français non plus, mais c'est des pâtes de fruits, le parti pris de ces pâtes de fruits, c'est de revendiquer le fruit, beaucoup plus le fruit que le sucre, et il y a cette texture, cette concentration en arôme, et cette texture particulièrement fondante, avec, comme je le disais, une petite coque légèrement craquante. Voilà, vous aimez bien ?
Ouais, c'est délicieux, c'est très bon.
Franchement, c'est bien. Ces pâtes de fruits sont fabriquées par Maison Bonheur, créateur de gourmandises à Marcueil en Barœul, dans le département du Nord. Bravo à Léa Paget, qui fabrique également de délicieuses guimauves et des craquants au chocolat. Toutes les infos sur ces gourmandises haute couture sur notre page internet Maison Bonheur, qui fabrique donc ces délicieuses pâtes de fruits. Un rendez-vous à vous signaler aussi pour tous les amoureux du livre de gastronomie. Le week-end prochain, samedi 14 et dimanche 15 juin, se tient la 3e édition du Salon du Livre de Cuisine Ancien et Moderne au marché du livre Parc Georges Brassens dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un événement qui a connu beaucoup de succès lors des deux premières éditions. J'ai eu l'honneur de parrainer cet événement depuis le début. Il y a plus de 50 auteurs et autrices qui seront là le week-end prochain pour des rencontres, des séances dédicaces, des tables rondes sous la présidence d'honneur du chef Guillaume Gomez. Vous n'en serez pas, Céline Maguet, avec ce très beau La Bonne Cuisine des Fruits ?
Il sort trop tôt, je pense.
Ah, voilà, c'est ça. Et j'aurai pour ma part le plaisir d'y passer la journée du 14, du samedi 14, si vous voulez qu'on s'y rencontre. Et je dédicacerai d'ailleurs mon dernier livre, Recettes et Récits, ainsi que nos encyclopédies On va déguster, paru aux éditions Marabout et Radio France. Et cette dédicace, ce sera le samedi 14, Parc Georges Brassens, à 14h30. Voilà, le Salon du Livre de Cuisine Ancien et Moderne, au marché du livre Parc Georges Brassens, dans le 15e arrondissement de Paris. Derrière la console, pour mitonner cette émission fruitée, Laurent Thomas, Benjamin Wagon, Fabrice Rivaud, La Fraise, son histoire, sa culture, ses recettes. On s'en parle juste après. Une chambre à moi, le nouveau titre de Philippe Catherine, choisi par Joe Bacca sur notre playlist. On ramène sa fraise sur France Inter.
Chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Un ara illichère. C'est un perroquet tout vert, aussi vert que mon jardin, devant ma chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne. Mmh.
du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne.
On va déguster.
Je suis Louise Anaïs Viard. Je produis des fruits rouges, essentiellement des fraises et des fraises des bois. Et je suis sur la commune de Vertu, à 20 km d'Épernay, en Champagne.
Et il y a une variété de fraises que vous appréciez particulièrement ?
Oui, la variété Dream, là, c'est la variété du moment. Vraiment, elle est vraiment excellente. Elle a un goût assez sucré, une petite pointe d'acidité. Elle est très brillante. Elle rend très bien sur les étals.
On peut la goûter ensemble ?
Oui, bien sûr. Oui, elle est vraiment très bonne et elle est très juteuse aussi. Allez-y, goûtez-la.
Bien charnue aussi.
Oui, un petit peu croquante. Je trouve qu'elle a beaucoup de qualité en fait, et pour la travailler sur différents desserts, elle sera vraiment géniale.
Elle est apparue quand, cette variété Dream ?
Ça fait la troisième année là, que je la produis, mais c'est une variété de saison, hein. On ne l'aura pas jusqu'au mois d'octobre. C'est vraiment là, éphémère sur 5-6 semaines. Il faut en profiter.
Et si la Dream était la nouvelle fraise de rêve ? Il y a Céline Maguet qui nous a rapporté une barquette que vous avez achetée où, Céline ?
J'ai acheté chez Terroir d'Avenir à Paris. Ouais. C'est des fraises Dream qui viennent des Bouches-du-Rhône.
Très bien.
De Provence.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette variété Dream ? À vous de la croquer. Loïc, Zazie, vous avez la bouche pleine ?
Bah déjà, elle est bien dodue. Enfin, il y a de quoi croquer.
Elle est assez charnue. Ouais.
Elle est assez charnue. Ah, celle-ci, je la trouve pas très, très sucrée, celle qu'on goûte.
Plutôt acidulée. Mm-hmm. Elle est plutôt acidulée. En fait, la Dream, c'est une fraise qui tient bien dans le temps. Elle peut bien voyager et elle peut être sucrée ou acidulée, mais c'est surtout sur sa qualité de tenir sur vos tartes, dans vos frigos plus longtemps.
Elle a quand même un parfum extraordinaire, Loïc.
Oui, un petit goût pointu aussi, je trouve. Qui fait tout son intérêt. Alors moi, j'en ai mangé une qui était plus petite, celle-ci, là, en effet, est plus conséquente et elle est vraiment très bonne.
Cette nouvelle variété française semble avoir tout pour elle. Elle est d'un rouge très très profond, vraiment un rouge vif, chair fondante et juteuse, assez sucrée, un peu d'acidité en effet, très présente en ce moment sur nos étals. Alors on la trouve surtout entre mi-mai et mi-juin. Et autre avantage pour les fraisiculteurs et fraisicultrices, c'est qu'elle affiche une très bonne résistance à l'oïdium. Vous savez, cette maladie qui touche souvent les fraises. Mmh. Et comme Louise Anaïs Viard, près d'Épernay, en Champagne, beaucoup de fraisiculteurs font le choix de la Dream. Et c'est, comme son nom ne l'indique pas, une variété d'invention française. Voilà, qui connaît un énorme succès depuis quelques années, qui concurrence d'autres variétés plus classiques, les variétés préférées de Céline Maguet, parce que vous nous en avez apporté d'autres. Vous évoquez la fraise dans votre très beau bouquin fruité, La bonne cuisine des fruits aux éditions First. Et vous avez, je crois, un coup de cœur pour une fraise qui a précisément une forme de cœur.
Mmh. J'aime beaucoup la Charlotte. Justement, elle a ce côté... Elle tire un peu même vers la fraise des bois. Je
trouve, oui, c'est vrai, elle a une pointe de fraise des bois.
Elle a une concentration assez forte, j'adore. Et là, je vous ai ramené aussi des séraphines et des sifflorettes.
Oui.
En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on a quand même 600 variétés de fraises en France, et au final, on tourne toujours avec une dizaine de variétés.
Celles qui sont assez efficaces.
Avec la Dream qui arrive, avec des nouvelles variétés, ça permet de varier.
Alors, la Charlotte, ça va de avril jusqu'à octobre, c'est un avantage. Hein. On va la trouver encore dans quelques mois. On la reconnaît à sa forme de cœur, elle est juteuse, particulièrement sucrée, avec ce petit parfum de fraise des bois. La sifflorette, c'est plutôt mars à juillet. Elle est de forme plus allongée, elle ressemblerait un peu plus à... Évidemment, la fraise star française, la fameuse Gariguette, qui fait quand même 20% des volumes nationaux et qui est la fraise la plus précoce et qu'on trouve plus trop là sur les étals. Hein,
la Gariguette. En fait, la Gariguette, elle revient pas. C'est une non-remontante, donc elle arrive une fois dans l'année et là, ça y est, il faut faire le deuil et attendre l'an prochain.
Créée en 1976 par l'INRA à Avignon. Et vous savez d'où vient le mot Gariguette ?
C'était le nom de la propriété sur laquelle ils l'ont développée. La Gariguette, l'INRA a une propriété là-bas dans le Vaucluse.
C'est ça, et ça vient de Garrigue, hein, mais c'est vrai que ça indique effectivement son origine provençale. Loïc Bienassi, Dream, Gariguette, Charlotte, Sifflorette, ces variétés de fraises modernes que l'on cultive en France sont des cousines, mais alors, vous allez nous le dire, des cousines très éloignées de nos fraises des bois qui existent depuis toujours sous nos climats tempérés, en forêt, quand on se promène, la fameuse fraise des bois, la fraise sauvage qu'on trouve au bord des chemins.
Oui, très éloigné parce qu'en fait, alors on consomme en Europe des fraises, on a des traces archéologiques depuis au moins le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est une consommation ancienne. Il y a des variétés autochtones, la fraise des bois, la fraise musquée, et on a trace par contre de culture de la fraise en France depuis le 14e siècle. C'est sans doute plus ancien, mais de manière avérée, c'est depuis le 14e siècle. Ce qui fait que ce qu'on cultivait, c'était ces espèces autochtones, ces variétés autochtones. Genre dans le potager du roi au XVIIe siècle, Louis XIV, c'était encore, c'était encore ces variétés-là. La vraie évolution, c'est le XVIIIe siècle, où là, on a des variétés venues des Amériques qui sont, dont descendent toutes les variétés qu'on connaît, qu'on a pu évoquer là à l'instant. En fait, d'un côté, il y a le fraisier de Virginie. On dit parfois que c'est Jacques Cartier, l'explorateur, qui au XVIe siècle, sous François Ier, aurait importé les premiers fraisiers de Virginie. Alors, autant il décrit les fraises qu'il trouve au Canada, autant pour moi, on n'a aucune trace qu'il les ait apportées. La première attestation claire de la présence de ce fraisier de Virginie à Paris, c'est 1623. Et à côté de ça, on a la fraise du Chili.
Et oui, la fameuse fraise du Chili.
C'est là où intervient Amédée François Fraisier.
Formidable.
Au nom prédestiné, alors ça ne s'écrit pas pareil.
Comment ça s'écrit, on veut le savoir.
F-R-E-Z-I-E-R.
Ouais.
Qui, ingénieur militaire, un peu espion, envoyé par Louis XIV au Chili pour espionner les fortifications espagnoles. Bah, c'est un homme curieux et il revient avec des fraises, les blanches du Chili. Il revient avec 5 plants. En 1714.
Parce que les premières fraises importées effectivement des Amériques sont blanches, pas du tout rouges.
Celle-ci en tout cas, celle que Fraisier rapporte, est 5 plants qu'il offre au Jardin du Roi, qu'il offre à Versailles et qu'il offre aussi ou qu'il fait cultiver du côté de Brest, ce qui va donner cette spécialité à Plougastel, puisque ce sont des fraises du Chili. Fraises de Virginie, fraises du Chili, les deux vont s'hybrider et vont donner ce qu'on appelle au XVIIIe siècle la fraise ananas, qui va être un peu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais la mère de toutes les fraises qu'on connaît aujourd'hui, dont dérivent toutes les variétés qu'on trouve aujourd'hui sur les étals.
Passionnant, hein. Aventure d'un fruit qui vient de l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, Céline Maguet, lorsque l'on fait l'inventaire des fruits que vous évoquez dans votre très beau livre, il y en a une trentaine, on l'a dit, au fil des saisons. C'est ça d'ailleurs, hein, l'énorme vertu de votre livre, c'est que vous avez vraiment pris le parti de travailler les fraises sur une année, avec toutes les saisons, et on sent la vérité de ces saisons.
Alors, toutes les recettes sur une année,
oui.
Pas les fraises, parce que sinon, on serait hors saison.
Non, mais c'est ce que je dis. C'est qu'à chaque saison, vous avez cuisiné des fruits français que vous avez trouvés sur les étals.
En fait, c'est un peu comme pour les légumes. L'idée, c'était de... J'ai fait 4 sessions de shooting photo, et vraiment de mettre en avant les fruits au moment où ils sortaient. Et il y a aussi, au tout début du livre, un calendrier des saisons qui le rappelle, de façon à... Voilà, c'est facile à trouver chez soi. Pour
un joli éventail, moi j'adore ça. Les outils visuels, comme ça, dans des encyclopédies, ça me fait rêver. Je suis resté dessus, je suis assez bloqué dessus.
Ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé, justement. On voulait vraiment que ce soit facile à lire et que tout le monde puisse l'utiliser.
Je peux dire que vous avez une très bonne éditrice.
Qui est présente, mon éditrice est présente dans
Rosemary
le...
Rosemary Di Domenico, une super éditrice de livres de cuisine. Il y a beaucoup de livres qui viennent... Il y a beaucoup de fruits, je veux dire, pardon, qui viennent des Amériques. Il n'y a pas que la fraise.
En effet, je peux vous en citer 3. Il y a la pastèque, qui en fait, à la base, vient d'Afrique de l'Ouest et qui a été acclimatée aux États-Unis et ensuite est revenue en Europe. Vous avez bien sûr, en fait, nous, en France, on connaît la myrtille sauvage, mais celle qu'on peut acheter sur les étals, c'est de la myrtille cultivée, du bleuet, qui, pareil, est une variété américaine. Et vous avez aussi très connu le pomelo, donc on appelle faussement pamplemousse, mais le pomelo. En fait, la variété qu'on utilise et qui est même IGP pomelo de Corse,
absolument,
c'est la Star Ruby qui a été développée au Texas dans les années 70.
Et oui, c'est carrément un agrume américain, un agrume des États-Unis. Allez, on plonge dans votre première recette, on en a envie. Parce que la fraise fait l'objet évidemment d'un chapitre avec plusieurs recettes à base de fraises, et la première recette de ce chapitre, elle m'a fait de l'œil. Je vous ai carrément demandé, ça a été un ordre de nous la cuisiner. Elle est d'inspiration, elle est inspirée d'une grande pâtissière française, c'est la tarte fraise basilic. Racontez-nous.
En fait, c'est une recette que je fais depuis 10 ans, que j'avais découvert sur Le Monde. Et que j'avais un peu fait à ma sauce, qui vient de la pâtissière Claire Etzler.
Absolument.
Et l'idée, c'est vraiment une pâte, vous avez une pâte sablée avec de l'amande pour que ce soit un peu plus croquant. Ensuite, vous avez une crème pâtissière au basilic. Et après, vous avez de la fraise fraîche. Ce qui est génial avec la crème pâtissière, c'est qu'on peut sortir de la vanille et mettre, par exemple, du poivre. Ah oui, ça croque. On peut sortir du poivre, on peut mettre, sortir du la vanille, on peut mettre du poivre, du thé fumé et, ou d'autres herbes. Ça fonctionne très bien. Donc dans le livre, par exemple, je mets aussi des prunes avec crème pâtissière au poivre.
Oh, la pâte.
La pâte est délicieuse.
Bon, d'ailleurs, je veux dire que j'ai essayé de la casser. La bouchée de tarte aux fraises s'est barrée sur mes fiches.
Ça va, vous n'êtes pas taché.
Non, mais alors, quel bonheur. Il y a ce petit côté poudre d'amande.
Poudre d'amande, et en fait, je les mixe. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de la poudre d'amande toute faite, vous pouvez la mixer.
Oui, parce qu'il y a du relief dans la
mastication. Il y a un peu de mâche, en fait.
La mastication.
Et moi, je préfère, parce que je trouve que l'amande, elle est comme ça, elle est plus profonde, on la sent mieux qu'une poudre d'amande déjà mixée.
Quel bonheur. Et puis, il y a cette petite crème, effectivement, de couleur verte, qui indique la présence du basilic, et franchement, basilic fraise. Bon, on le sait maintenant presque, hein, c'est devenu presque un mariage classique, un mariage d'amour qui fonctionne à tous les coups, hein, Zazie.
Ouais, ça fonctionne super bien, et je trouve que ça donne de la légèreté aussi à la crème, parce que parfois on peut se dire que c'est un peu, ça peut être un peu plombant, et là ça fait une crème super légère, ça se marie super bien, et vous mettez aussi des petits brins de basilic,
basilic frais
par-dessus, qui apportent aussi quelque chose en plus, c'est délicieux.
Et en l'occurrence, c'est de quelle fraise
Celle-ci, j'ai utilisé des sifflorettes.
Oui.
Des petites sifflorettes.
Qui nous viennent d'où ?
Alors, celles-ci, elles viennent toujours de Terroir d'Avenir. J'ai tout acheté à Paris parce que les fraises, comme on va le voir, elles tiennent peu le transport. Mm-hmm. Ma mère m'en avait ramené du Sud, mais elles n'ont pas tenu. Je les ai toutes mangées.
Ah, d'accord. Vous n'avez pas gardé du tout.
Parce elles n'auraient pas tenu en même temps.
Il faut préciser, Céline Maguet, que vous avez shooté les photos de votre livre en Provence, qui est quand même
près de Carpentras.
Un terroir exceptionnel. Et près de Carpentras, parlez-nous un peu de la fraise de Carpentras, parce que c'est celle que vous avez utilisée pour faire vos recettes.
Exactement.
Dans le chapitre fraise.
Exactement. En fait, fraise de Carpentras, très connue, c'est un super terroir là-bas, d'argile qui nourrit bien les fraisiers. Mm-hmm. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec les Charlottes, que j'adore donc, de Naël, qui est un maraîcher qui s'appelle Auprès de la Nesque, qui est à Pernes-et-Fontaines. On a tout shooté à Pernes-et-Fontaines. Il y a énormément de maraîchers en bio là-bas, et ça m'a permis de travailler avec des superbes fruits, notamment les fraises.
Et on parle évidemment de fraises de pleine terre.
On parle que de fraises de pleine terre.
Qui prennent le soleil de la Provence, qui ont donc un lien à leur territoire. Ça se passe comment là?
Ah bah, il a fini ça.
Je crois que ça se passe bien, Loïc, la tarte aux fraises.
Ah bah oui.
Non mais vous l'avez englouti en fait.
J'ai pas englouti, vous parliez. Bah,
c'est l'émission de radio quoi. Bah
voilà. On a le droit éventuellement à un petit commentaire de dégustation ou pas?
Oui évidemment. Alors moi c'est la pâte notamment que je trouve excellentissime, sa texture, vraiment c'est, je trouve ça délicieux. Et en effet on a même pas le sentiment que c'est vraiment de la crème pâtissière, tellement elle est légère et que aérée. J'ai adoré.
Avec des fraises au cœur de la saison qui sont bien pulpeuses, charnues. Bien sucré, franchement, c'est extraordinaire.
Et si on n'a pas le basilic, on peut mettre autre chose dans cette
bonne question.
Crème pâtissière.
Verveine, par exemple, très bonne idée, verveine. Et vous verrez aussi un autre accord que j'ai fait plus tard avec de l'oseille. Ça marche très très bien si vous en avez dans votre jardin.
Et moi, je me permets aussi d'ajouter un petit accord que j'aime particulièrement, c'est les notes anisées et réglissées de l'estragon la fraise. Franchement, là aussi, grande entente.
Très bonne idée.
Voire mariage éternel. On parlait de la culture des fraises, précisément à Carpentras et dans la région où vous avez photographié les recettes de votre livre, chère Céline Maguet. Comment elles se cultivent en France? Eh bien, on va prendre un peu de champ avec Zazie Tavitian.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, vous êtes partie faire cueillette, alors pas du tout en Provence, parce qu'on va se rendre compte que la fraise, elle se cultive partout en France. Vous, en l'occurrence, c'est la Savoie, les pays alpins.
Oui, et je vous propose de tendre l'oreille. François-Régis, Céline, Loïc, qu'est-ce que vous entendez là?
Des pas dans un champ?
Non, c'est des fraises.
Pardon.
Que l'on cueille. C'est des mains qui cueillent des fraises, et plus particulièrement des fraises bio pleine terre du potager de Saint-Ine, potager qui se trouve à Brison-Saint-Innocent en Savoie, donc une ferme que j'ai découverte un vendredi en fin d'après-midi, jour où les particuliers peuvent aller acheter des légumes sur place. J'ai trouvé les fraises si délicieuses que j'ai donné rendez-vous à la créatrice du lieu, la maraîchère Maëlys Ferré, le lundi suivant pour qu'elle me raconte sa démarche. Quand je suis arrivée, je suis d'abord tombée sur son père, Gérard, qui venait aider sa fille a récolté ce fruit, parce que c'est un fruit qui est très pénible à ramasser. Ce retraité, il était assez bluffé par l'énergie de sa fille, ancienne ingénieure agronome, installée comme maraîchère depuis 7 ans ici avec son compagnon Nicolas Traversa. Et puis Marie-Lise est arrivée et je lui ai demandé de me décrire le coin.
Déjà, on est en surplomb du lac du Bourget, on est sur les hauteurs de la commune, donc on a une vue assez magnifique sur une grande partie du lac. On voit presque d'un bout à l'autre Aix-les-Bains et de l'autre côté la Chautagne avec la Dent du Chat qui est en face. On a à peu près 1,5 hectare, même 2, et sur une petite dizaine de parcelles, plus ou moins grandes, donc on est très éclaté. Ouais. Le foncier est très cher, à moins d'avoir des terrains familiaux, mais c'est de moins en moins le cas, donc ouais, c'est très difficile dans la région.
Qu'est-ce que vous cueillez en ce moment ?
Bon, les fraises essentiellement, et puis ben là ce matin on était dans les petits pois qui sont magnifiques, là, qui sont en train de bien donner, vraiment le légume de printemps, et probablement la semaine prochaine les premières courgettes.
Est-ce qu'on irait cueillir des fraises ?
Eh ben, allons-y, je prends une barquette. Donc là, c'est des grandes barquettes qui font 500 grammes une fois qu'elles sont bien remplies. Donc ça, c'est des fraises qui ont été plantées l'année dernière. Une partie en remontant, donc qui ont été plantées en racines nues. Une partie en très plants, qui sont des plants qui sont forcés en frigo pour qu'ils donnent dès la première année. Et une partie qu'on a plantée à l'automne d'il y a 2 ans en motte. Donc 3 ou 4 variétés différentes. De la gariguette, de la clairie et après des charlottes pour étaler la production et les saveurs qui sont différents aussi.
Et c'est des fraises qui sont pleines terre. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que ça veut dire une fraise pleine terre en fait ?
Alors déjà en bio, on est obligé d'avoir les fraises en terre parce que dans le cahier des charges, on ne peut pas cultiver des légumes ou des fruits hors sol. Il faut que vraiment la plante ait ses racines dans le sol. Donc ça, c'est la base de l'agriculture biologique. Mais effectivement, il faut être soit accroupi, si on est assez souple des genoux, ou sinon vraiment penché en avant.
Il y a plein de petits animaux qui, eux, adorent les fraises. Donc quand on est maraîcher, il faut un peu lutter contre ces prédateurs naturels.
Oui, bah là, principalement celle-ci, il a fait chaud cet hiver ou pas assez froid, je ne sais pas comment on dit. Mais donc, il y a déjà pas mal de pucerons. Après, quand il commence à faire chaud, il y a les merles qui adorent aussi mettre un petit coup de bec sur la fraise et puis goûter toutes celles d'à côté aussi, tant qu'à faire. Les souris aussi. Puis l'année dernière, on a eu la chance d'avoir un blaireau qui est venu visiter nos serres. Mais avant qu'on comprenne que c'était un blaireau, il nous a fallu bien 15 jours, 3 semaines. On pensait que c'était vraiment des gens qui venaient les ramasser parce que c'était propre. Je pense que pendant 2-3 semaines, il s'est bien régalé.
On adore ce blaireau qui s'est goinfré de fraises.
Oui, même si malheureusement, c'est quand même au détriment de cette pauvre fraisicultrice.
Mais oui, mais du coup, on l'entendait, la production de fraises bio, elle demande beaucoup de soins. Donc en plus des ravageurs qu'évoquait Maëlys, il y a aussi les drosophiles. Suzuki, ce sont des petites mouches qui vont venir pondre dans les fraises. Et quand il fait chaud, généralement, on voit d'abord rien sur la fraise, mais quelques heures plus tard, elle tourne et elle change de goût. Et c'est aussi à cause de ces difficultés que beaucoup de fraises sont cultivées non pas en pleine terre, mais hors sol ou en jardin suspendu. Donc c'est sur des substrats inertes, comme la fibre de coco par exemple, et c'est alimenté par des minéraux. C'est des techniques qui permettent de récolter les fraises en hauteur aussi, et donc ne pas se plier en deux pour aller les chercher. Et j'ai demandé à Maëlys pourquoi elle, malgré la difficulté de son métier, elle continuait à cultiver ce fruit.
Parce que j'adore les fraises, et on sent que vraiment... Quand les gens trouvent des fraises dans le magasin, ils sont vraiment contents. C'est ce côté de faire plaisir aux gens. Vraiment, avec la fraise, il y a ce truc qu'on n'a pas avec les légumes. C'est à part. J'en ferai pas des hectares. Mais comme ça, ça me plaît. Et puis c'est assez raccourci, donc pendant un mois et demi, on sait qu'on va ramasser des fraises et après c'est fini, donc il faut en profiter, quoi.
Votre père, que j'ai rencontré au début, avant que vous arriviez, me disait qu'il faut vraiment être militante aujourd'hui pour faire du maraîchage en bio comme le fait ma fille. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est sûr. Non, mais nous, c'est sûr, c'est une conviction avec mon conjoint. C'est un mode de vie même, je dirais. Il y a eu une tendance, c'est vrai, après le Covid ou même un peu avant, cette vision un peu bucolique d'être agriculteur, qu'on ait les mains dans la terre, que c'est magnifique. Non, c'est vraiment difficile. C'est un métier qui est dur, qui commence à être un peu valorisé aujourd'hui, mais qui reste assez ingrat. Et aussi, le plus difficile, c'est d'être dépendant de... Bah, des aléas climatiques, on donne vraiment tout ce qu'on a et des fois, instantanément ou du jour au lendemain, une maladie, un ravageur, un aléa climatique qui fait que tout est réduit à zéro. Mais moi, je suis fière de ce que j'arrive à faire. C'est sûr, on n'a pas des vacances, des week-ends tout le temps, mais je sais pourquoi je le fais et je continuerai à le faire. Et surtout en bio, je suis persuadée que ce mode d'agriculture est celui de demain.
Est-ce que j'ai le droit d'en goûter une alors ?
Oui, avec grand plaisir. Elles sont bien sucrées malgré la pluie. Elles ont profité du soleil de ce dimanche.
Elles sont délicieuses.
Elles sont bonnes. C'est vrai que les gens nous le disent. Des fois, on se dit c'est pour nous faire plaisir, mais quand même, ça fait plaisir les petites fraises du jardin, je dirais.
Zazie, elles ont l'air bonnes, hein, ces fraises. Où peut-on les trouver, ces fameuses fraises de Maëlys?
Elles étaient vraiment très bonnes, j'en ai mangé beaucoup. On peut les trouver au potager de Saint-Yme qui organise une vente à la ferme tous les vendredis de 16h à 20h. Enfin, c'est toute l'année, mais aussi pendant l'été, en plus le mercredi de 11h à 13h. Donc je vais vous remettre le site, ça s'appelle le potager de Saint-Yme.com. Enfin, je vous remets tout sur le site
et
de l'émission de France Inter.
Et rappelons qu'on est à Brison-Saint-Innocent, département Savoie, 73.
C'est ça, vraiment juste à côté d'Aix-les-Bains. Et on n'a pas parlé du prix, mais je trouve plutôt raisonnable. C'est 4,50€ la barquette de 250 grammes. Et Maëlys propose aussi un prix solidaire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui le demandent sans justificatif, qui en ont besoin, ont moins 20% sur tous ces fruits et légumes.
J'imagine malheureusement que vous n'avez pas pu nous rapporter les fraises de Maëlys, Zazie Talitian.
Ben si, et ben j'ai fait même mieux que ça. J'ai fait une confiture quand j'étais là-bas sur place.
Extraordinaire.
Je vous mettrai la recette sur le site. Et donc vous l'avez devant vous. Alors j'ai fait ma petite recette. Moi j'aime bien quand il y a des morceaux.
Oh que c'est bon.
Elle est un peu musquée. Mm-hmm. On sent vraiment le goût de la fraise. Quelle variété tu as utilisé?
C'était, il y en avait deux différentes et il me semble qu'il y avait les clairies dedans. Ah, et oui. Peut-être, comme c'était au début de ma mère, peut-être des gariguettes encore.
Ouais. Elle est très bonne. Céline Maguet, vous abordez évidemment la question des confitures dans votre livre sur la cuisine des fruits.
Au début du livre, je fais un peu des techniques de conservation, comme vient de montrer Zazie. C'est dommage quand on a des fraises un peu fraîches ou même justement un peu fatiguées de ne pas pouvoir les transformer et les conserver. Mm-hmm. Et je propose aussi des associations, parce que, à nouveau, je vais citer ma mère, mais c'est une grande maîtresse confiturière.
Comment elle s'appelle, votre maman?
Françoise.
On va l'embrasser alors.
Et elle m'a donné, donc c'est vraiment ses astuces. Et elle associe par exemple donc fraises, poivre, elle va associer figues, badiane. Mm-hmm. Ça marche très très bien et toujours avec pas trop de sucre.
Bravo en tout cas pour votre confiture, Zazie. Franchement.
C'est vraiment aussi les fraises qui font qu'elle est bas. Mais moi,
alors, il y a la matière première, il y a la confiturière.
Je les écrase un petit peu avant au presse-purée. Avant de les faire cuire, moi. C'est
très bonne idée.
Je veux bien embarquer.
Et la bonne technique en confiture aussi, c'est de
le ramener pour mon petit déjeuner, François. Ça peut se négocier.
Et la bonne technique en confiture aussi, c'est de d'abord les faire mariner pendant une nuit avec du sucre, avant de les faire cuire.
Je note.
Céline Maguet, on évoquait la culture des fraises, évidemment, qui n'est pas une chose facile. Il ne s'agit pas du tout de jeter l'opprobre sur une partie des fraisiculteurs qui ont fait le choix de la culture hors sol, mais culture hors sol et culture de pleine terre, on ne parle pas du tout des mêmes techniques culturelles et il faut choisir son camp. Les proportions, je crois que c'est 2/3 de culture des fraises hors sol avec les avantages que vous évoquiez, Zazie, à savoir qu'on ne se penche pas puisqu'on est à hauteur pour la cueillette. Donc déjà, il y a moins de limbago chez les ramasseurs de fraises, évidemment. Il y a moins de risques de maladie aussi puisque ce sont des substrats qui sont un peu clos. En revanche, il y a quand même, il faut le préciser, le bilan carbone de ces substrats fait, comme vous l'avez dit, de fibres de coco et de tourbe parfois d'Europe de l'Est. Il y a donc évidemment tout ce bilan carbone. Et puis ensuite, c'est des substrats qui sont carrément jetés. Il y a les emballages plastiques de ces substrats pour la culture hors sol. Donc tout ça, c'est évidemment pas anodin. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Céline Maguet?
Bah, par exemple, typiquement à Carpentras, là où j'ai photographié mon livre, on le voit bien, c'est une région de fraises. Et en fait, quand on se promène, on voit beaucoup de hors sol, donc sous des tunnels. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des bio. Donc, en fait, j'ai beaucoup goûté des fraises qui étaient pleine terre. Quand j'en parle avec eux, pour eux, il y a vraiment ce lien avec la terre qui c'est hors de question.
Sachant qu'on le rappelle, hein, le cahier des charges bio rend obligatoire ce lien à la terre, au terroir.
Ouais, sauf pour les endives, si on doit être précis. Mais sinon, pour le reste, voilà, ça doit forcément naître et pousser en terre. Et donc, pour le coup, pour avoir goûté, en fait, j'ai goûté les deux, parce qu'il y en a plein là-bas. Gustativement, malheureusement, j'arriverai pas à dire quand c'est pleine terre ou hors sol, pour être honnête. En revanche, il y a quand même cette question de philosophie derrière qui est importante. Un fruit, ça pousse dans la terre, et vous l'avez dit, vous faites venir de loin des substrats, et après, vous créez ex nihilo un terroir. Et en fait, c'est vrai que, pour le coup, Naël, le producteur avec qui je travaille, lui, il insiste vraiment sur l'importance de son terroir d'argile, lourd, qui donne beaucoup qui vraiment nourrit ces fraisiers.
Si on regarde la consommation et la production de la fraise en France, c'est 120 000 tonnes de fraises produites et consommées par an, la moitié est importée. Donc en regardant le verre à moitié plein, on peut considérer que la France est souveraine à 50% en termes de fraises. Mais si on regarde le verre à moitié vide, effectivement, elle est dépendante des marchés étrangers, et notamment de l'Espagne. Mmh. Précisons que 39% des fraises que nous consommons du début à la fin de la saison sont importées d'Espagne. Et là, pour le coup, on a affaire à une fraise de piètre qualité, on peut le dire. Autant certaines fraises qui viennent de Belgique, on en parlait avec Lorraine Thomas dans le bureau ce matin, avec Lorraine, notre réalisatrice, il y a des fraises de Belgique, bon, on ne connaît pas tout à fait leur culture, on sait que c'est souvent hors sol et que c'est en serre, mais elles sont très bonnes, sucrées.
En Belgique, ils ont même la fraise de Wépion.
Ils ont des traditions.
Ils ont des traditions de fraises. En Espagne, la différence, c'est que tout est fait en Andalousie, donc là, la grande région productrice de fruits.
Bien sûr.
Et aussi, ça leur permet ils les sortent dès janvier. Donc il y a une compétition en fait qui arrive même plus tôt que la nôtre. La fraise française, c'est mars, avril, mai, idéalement mai, pour être honnête. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que vu que c'est une fraise qui voyage, ce qui va être développé, ce sont des variétés résistantes. C'est pas gustatif en fait. Ils vont pas aller chercher le goût, ils vont aller chercher une fraise qui, quand elle arrive en France ou elle arrive dans le nord de la France, elle a pas d'à-coups, elle est bien rouge, mais le goût y est pas toujours.
Et puis elle est très flatteuse, elle est bodybuildée, effectivement elle est bien rouge, c'est un peu comme l'histoire des tomates, mais en réalité quand on croque dedans, on a affaire à une pierre qui souvent manque un peu de sucre pour ne pas être trop caricatural.
Après, vous pouvez voir aussi quand vous achetez des fraises, bien sûr, vous regardez l'origine, mais aussi c'est à l'odeur que ça se joue, à la couleur et à l'odeur. Si une fraise, il faut qu'elle soit bien rouge, mais aussi, normalement, elle doit être odorante. Et typiquement, une fraise qui n'a pas beaucoup de goût, elle ne va pas être odorante.
Et que répondez-vous à l'argument du prix, Zazie ? Parce qu'on va recevoir des mails sur la question. Ah, évidemment, non, mais attendez, la fraise espagnole, c'est 4 fois moins cher que la fraise française si on ne tient pas compte ni des qualités gustatives, ni du coût du transport, ni parfois des conditions sociales très aléatoires de la récolte et du ramassage à Almeria, en Andalousie, au sud de l'Espagne.
Vous venez de le dire, il y a le goût. Si vous utilisez en fait des fraises qui n'ont pas beaucoup de goût, vous allez compenser avec du sucre, par exemple. Beaucoup de sucre. Si vous faites des confitures avec des fraises sans goût, tout va jouer dans le sucre. Alors oui, en effet, c'est moins cher. Mais par contre, quand vous vous approchez des lieux de production, donc Sud-Ouest, Val-de-Loire, Bretagne, Provence, là on va s'approcher, on va être plutôt entre 8 et 12 euros le kilo. Oui, c'est un produit de luxe, bien sûr, mais vous pouvez tout utiliser. Il y a des techniques pour vraiment tout utiliser et aller chercher vraiment jusqu'au bout la fraise.
On va le voir avec vous dans un instant. On vous a mis pas mal de fraisiculteurs, de producteurs de fraises sur le site internet que moi je suis allé voir en bio et pleine terre à Plougastel il y a quelques années. On vous a mis un petit carnet d'adresses. C'est étonnant parce que la fraise française à 66%, on le sait pas forcément, elle est produite dans le Sud-Ouest. Alors il y a évidemment un label rouge, le Lot-et-Garonne est un grand département de production de fraises. On pense souvent que c'est la Provence, alors que la Provence ne représente que 8%, le Sud-Est. Zazie.
Non, je voulais, quand vous parliez des producteurs de fraises, allez voir, il y a un auditeur qui me parle lors de Charline ramène sa fraise dans le Vaucluse, qui fait des variétés de fraises excellentes et entre autres des Dream, votre fraise préférée, François-Régis.
Parfait, et enfin signalons que la fraise française bénéficie de 2 indications géographiques protégées, 2 IGP. Alors je ne vais pas vous demander lesquelles, je ne vais pas vous piéger quand même, parce que moi-même j'ai appris des choses. IGP fraise du Périgord et IGP fraise de Nîmes. Voilà. Ça vous embouche un coin ?
Absolument.
Dans un instant, Loïc nous raconte comment la fraise s'est fait une place au soleil dans notre pâtisserie française. On vous révèle la véritable histoire du fraisier. Ouais. Et on déguste ce magnifique gâteau préparé par Céline Maguet ainsi que d'autres choses. La fraise, tout en douceur sur France Inter.
In. I hear the climb. Just shoot for the sun till I can finally run. Find a way to fly.
Bluebird, Lana Del Rey.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
La fraise, c'est le fruit de saison et c'est notre menu dominical avec Céline Maguet, autrice de La Bonne Cuisine des Fruits. 30 fruits au fil des saisons, de magnifiques photos signées Quentin Tourbez. Je le dis bien,
non,
parce que vous m'avez dit qu'il ne fallait pas trop prononcer.
C'est un Aveyronnais, il faut faire attention.
Quentin Tourbez, ça va bien. 100 recettes, essentiellement du sucré. Mais il y a quand même du salé.
Il y a des idées d'association salée. Justement, l'idée, c'était de montrer... Bon, on est sur un dessert un livre de dessert et de pâtisserie. Mm-hmm. Mais il y a, dans chaque introduction sur les fruits, vous avez plein d'informations, et notamment des associations gagnantes avec, par exemple, pour la fraise, je vous ai mis fraise avec tapenade d'olive noire. Ça marche très bien. Ou vous faites un quasi de veau rôti et vous faites une sauce vierge de fraise. Donc, huile d'olive, fraise, basilic à nouveau ou menthe.
Ce que toute l'équipe dont on va déguster a particulièrement apprécié dans votre livre, Céline Maguet, c'est ce parfait équilibre, ce bon compromis entre des recettes traditionnelles, des recettes beaucoup plus créatives, et une large place aussi accordée à nos, on pourrait qualifier, nos recettes régionales, des recettes de tradition régionale qu'on avait un peu oubliées, le pain coin par exemple, on attendra évidemment la saison du coin, mais c'est une recette provençale tout à fait intéressante que je ne connaissais pas, il y en a d'autres.
C'est un coin pris dans une brioche, justement, un coin poché. Il y a le fiadone corse que vous connaissez bien sûr.
Avec du citron, ça je connais bien.
Bien sûr. Il y a le far breton avec des prunes, à la place des pruneaux.
Vous avez des origines alsaciennes aussi.
Il y a bien sûr, donc j'ai mis la Linzertort, donc la tarte framboise qu'on retrouve aussi en Autriche, en Allemagne et en Alsace.
Absolument.
L'idée c'était.
Gâteau basque à la cerise.
Le gâteau basque à la cerise, les palais bretons avec une petite crème au pamplemousse. En fait, l'idée c'était aussi de mettre en avant ces desserts régionaux et de les désucrer un peu, de les rendre peut-être un peu plus actuels. Justement, en ayant moins de sucre, en ayant des choses un peu plus digestes.
Parfois moins de farine.
Parfois
sans lait, sans lactose.
Il y a aussi ça, c'est que j'ai dans ce livre, il y a des fruits qui sont végétaliens, il y a des desserts qui sont végétaliens, il y a des desserts qui sont sans sucre, carrément sans sucre. Et l'idée, c'était de montrer que c'est pour tout le monde. C'est pas moi, je suis omnivore, donc je ne mange que des desserts avec du lait. En fait, c'est aussi possible d'avoir des choses qui sont aussi, tout aussi bonne avec pas de produits laitiers ou pas d'œufs. Voilà.
Et pour revenir à la fraise, circule sous nos micros dans une très belle céramique, c'est quand même pas vous qui avez fait les céramiques.
Non, j'ai ramené des céramiques, parce que j'aime. C'est important, c'est dans quoi on
petit
sert.
Petit bol en céramique.
C'est les céramiques de Judith Lasserie en Bourgogne.
Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos céramiques, Zazie et Loïc? Décrivez-moi ça, Loïc.
Une sorte de trou normand, c'est ça? De combinaison alors, d'alcool.
Sauf qu'on n'est pas trop en Normandie, mais non. C'est l'idée d'un trou, en effet.
Et avec un sorbet, des fraises.
Oh là.
Délicieux sorbet.
Ah, ça, c'est une folie. Hein.
Et en fait, c'est un sorbet qu'on peut faire soi-même sans sorbetière.
C'est-à-dire ?
Souvent, on pense que pour faire des sorbets et des glaces, il faut le faire avec une sorbetière. En fait, vous faites une base eau, sucre avec vos fraises. Vous mixez tout ça et vous faites prendre au congélateur et toutes les heures, vous sortez et vous mixez pendant 4 heures. Alors oui, c'est un peu de boulot, mais en vrai, c'est quoi? C'est vous laissez votre mixeur, vous mixez, vous remettez au frais, vous remettez toutes les heures. À la fin, au bout de 4 heures, vous servez un sorbet maison sans sorbetière.
Et on a une texture onctueuse, souple, on a l'impression que ça sort de la sorbetière. Et puis l'intensité des arômes de fraises. Petit alcool.
Oui. Alors l'alcool, ce dessert s'appelle trou provençal. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que je l'ai fait dans le sud et que j'ai associé les fraises de Carpentras et à la base c'était une eau de vie du sud. Je l'avais pas chez moi cette eau de vie, donc j'ai ramené une eau de vie bretonne de la distillerie du Ponant.
Mais c'est bien, mélangeons les régions.
Donc là on est vraiment sur toute la France, les fruits français et les alcools français. Et avec ça surtout il y a une petite herbe, je sais pas si vous la retrouvez.
Oui.
Qui donne une petite pointe d'acidité.
Un peu d'oseille, non?
Il y a de l'oseille. En fait, ça marche très bien ensemble aussi. Vous pouvez inverser. Vous pouvez faire un sorbet oseille avec des fraises. C'est délicieux. Oui.
Et les fraises qu'il y a en dessous, parce qu'il y a des morceaux de fraises aussi, c'est juste des morceaux de fraises comme ça ou elles sont un peu confites?
Non, c'est des fraises comme ça avec un tout petit peu d'huile d'olive.
Et elles sont juste marinées minutes dans cet alcool. Franchement, c'est divin.
Alors je vais répéter parce que je pense que j'ai un peu... C'est fraise, oseille, huile d'olive.
Ouais.
Vous rajoutez un petit sorbet dessus. Là, c'est un sorbet de fraise que j'ai fait, mais vous pouvez mettre un sorbet d'oseille. Mm-hmm. Et ensuite, un trait d'eau de vie.
Régal absolu. Bravo, Céline Maguet. Alors là, vous avez tout bon, hein, je peux vous le dire.
Sur France Inter, on va déguster.
Ça réagit pas mal sur nos réseaux sociaux, sur notre mail, Zazie Tavitian, des réactions d'auditeurs et d'auditrices.
Oui, on a des questions et on propose des événements aussi. Première question, il y a Roussel66 qui nous demande comment conserver les fraises fraîches.
Alors les fraises fraîches, il faut...
Intéressant. Frigo, pas frigo.
Alors, moi je suis partisane, ne pas les mettre au frigo. Ouais, ça veut dire qu'il faut les manger dans les 48 heures. Tout à fait, sinon vous allez perdre, elles vont perdre en goût. En revanche, la technique, c'est vraiment de les... de ne pas les garder dans leur barquette. Il faut les espacer. En fait, c'est quand elles se touchent qu'elles se donnent ces petits, vous savez, ces petites meurtrissures qu'on retrouve sur les fraises.
Elles ont tendance à s'écraser, elles manquent d'espace en fait.
Voilà, donc vous leur mettez un grand plat, vous les espacez les unes après les unes loin des autres,
laissez et
vous les
respirer.
Gardez plus longtemps.
C'est ça.
Voilà, laissez respirer
c'est
les fraises.
Voilà, exactement, on les laisse respirer. Très bien. Autre réaction ?
Oui, ben on a aussi plein d'événements. Franchement, on a fait cette émission le bon dimanche parce qu'il y a aujourd'hui même la fête de la fraise à Plougastel d'Aoulas.
Non.
Et une tentative de battre le record du monde de la plus grande tarte aux fraises. Donc c'est aujourd'hui à Plougastel.
Vive la fraise de Plougastel, surtout quand elle est bien cultivée. Et on l'a dit, hein, c'était le point d'arrivage, en quelque sorte, de la fraise d'Amérique avec Fraisier.
Exactement. C'est là, cette fraise du Chili qui là, a prospéré à l'origine. C'est ça qui a lancé cette spécialité régionale.
Très bien, Zazie.
Et il y a aussi Jean-Jacques Leguet, qui est le cinquième adjoint au maire de Clairac, dans le Lot-et-Garonne, il le précise, qui nous parle de ce week-end aussi, le délicieux festival de la fraise, les Fraisiades.
Voilà,
jusqu'à lundi.
On a aussi Christophe dans le Morbihan, décidément beaucoup de Bretons, qui nous précise que, ah, ça c'est intéressant, un point botanique comme je les aime. La fraise n'est pas un fruit. C'est un faux fruit. Vous êtes d'accord, Céline? Parce
oui,
que vous acquiescez?
Oui, c'est un faux fruit, mais en fait, si on devait parler de fruits à chaque fois, on mangerait quasiment pas de fruits, en fait.
C'est vrai.
La rhubarbe, c'est pas un fruit. Voilà.
C'est vrai. Mais alors, pourquoi c'est un faux fruit? Parce que c'est...
Allez-y.
Non, je vous en prie.
Non, je vous en prie.
C'est ce que nous explique Christophe. C'est un réceptacle pulpeux sur lequel tous les akènes, ces petites graines, mais qui en fait ne sont pas des graines.
Ce sont les fruits, en fait.
Ce sont des fruits. Donc on pourrait dire, de façon très poétique, que la fraise est une corbeille de fruits. Et chacun des akènes, oui, c'est un akène. Hein. Chacun des akènes est effectivement un fruit. Voilà, ça vous en bouche un coin.
On va déguster.
Nous ne sommes pas historiens. Mais nous aimons les bonnes histoires, même si elles sont inventées.
Sur France Inter.
La fraise, fruit de choix dans notre répertoire culinaire, et plus particulièrement, Loïc Bienassé, notre répertoire pâtissier. Et ce, depuis pas mal de temps.
Alors, depuis pas mal de temps, mais en même temps, les manuscrits culinaires médiévaux, en Europe, en général, on ne trouve pas de fraises dedans. Au Moyen-Âge, j'ai dit qu'on mangeait des fraises, mais... on n'a pas de recette à base de fraises.
Et on parle de fraises des bois. Hein.
Absolument, à cette époque-là, ce sont des fraises des bois. Premier livre de cuisine imprimé en France, 1486, Le viandier de Taïwan. On trouve des fraises, mais on les trouve où ? Dans un menu, en fin de repas, on mange des fraises sucrées. On mange des fraises, sans plus de précision, parce que c'est comme ça.
Mais souvent avec de la crème sucrée d'ailleurs. Hein.
Alors,
déjà l'association crème-fruit...
Voilà, c'est qu'on a sur la table différents plats et on a notamment des fraises. Donc, encore une fois, pour le fruit en fin de repas. Donc c'est comme ça qu'on les consomme. J'ai presque envie de dire, on ne les cuisine pas. On a un manuscrit anglais du 15e siècle, on trouve une préparation quand même de tarte, mais c'est rarissime. Et encore, dans un texte de 1692, nouvelle instruction pour les confitures... Il est dit, donc là on est à la fin du XVIIe siècle, là on n'est plus au Moyen-Âge, on se contente ordinairement de les manger, les fraises, lavées dans de l'eau ou dans du vin, les ayant ensuite poudrées de sucre. Donc j'ai envie de dire quelque chose qu'a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Hein. Pourtant, se développe à ce moment-là une cuisine, une pâtisserie de la fraise. On voit dès 1607, dans un ouvrage qui s'appelle Le Trésor de Santé, on en fait des tartes, les mettant sur la pâte toute crue avec du beurre, sucre et cannelle.
Ah, intéressant.
On est en 1607.
Avec de la cannelle.
Et donc se développe là, 17e, 18e siècle, avec l'arrivée aussi des variétés américaines, cette pâtisserie de la fraise. 1739, François Marin, don de Comus, mention de tartelettes de fraises. 1741, le dictionnaire économique de Chomel, on trouve mention de tourte de fraise. 1755, Menon, les soupers de la cour, tourte de fraise à la glace, et c'est de la pâte d'amande surmontée d'une crème glacée, elle-même surmontée de grosses fraises. Donc là, 18e siècle, se développe cette pâtisserie de la fraise qui n'a finalement jamais cessé depuis. Quant aux spécialités qu'on connaît tous aujourd'hui...
À commencer par une spécialité à laquelle la fraise a donné son nom quand même.
Alors le fraisier, Le fraisier, ça, c'est une spécialité finalement assez récente. On trouve des fraisiers, par exemple, chez un auteur qui s'appelle Pierre Lacam en 1900, mais il n'a rien à voir, enfin, il appelle ça le fraisier des bois, qui n'a rien à voir avec le fraisier actuel. Mmh. 1909, un ouvrage d'Arène et Duval, pardon, traité de pâtisserie moderne, on trouve le fraisier. Mais là encore, c'est une génoise aux amandes surmontée d'une épaisse couche de confiture de fraises au kirsch. Mm-hmm. Donc rien à voir avec le fraisier actuel. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que c'est le nôtre qui a inventé le fraisier qu'on connaît tous aujourd'hui.
Gaston de son prénom.
Absolument. Sans doute en 1966, mais ça s'appelait le bagatelle. Et on se retrouve, lorsqu'il y a « Faites votre pâtisserie comme le nôtre », ouvrage qui est publié en 1975, il a une recette de fraisier, mais qui n'est pas du tout le fraisier qu'on connaît. Il a sa recette de bagatelle, qui est comme le fraisier qu'on trouve partout, sous le nom de fraisier, avec une crème au beurre. Maintenant, on a tendance plutôt à utiliser une crème mousseline plus légère. Et donc, on peut dire, je pense, que le fraisier actuel, c'est réellement le nôtre qui l'a inventé en 1966 sous le nom de bagatelle.
Gaston, le nôtre, inventeur du fraisier sous le nom de bagatelle, car fraisier désignait une autre réalité pâtissière. Oh là là, il faut suivre. Hein.
Ah bah oui.
Intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que la cuisine, c'est toujours des enquêtes et des intrigues, et vous êtes notre Sherlock Holmes de l'histoire culinaire. Cher Loïc, vous le saviez que c'était une invention de Gaston le nôtre ?
Non, je ne savais pas du tout.
Céline Maguet.
On apprend tous les jours, même quand on a écrit un livre là-dessus.
Et ça ne vous a pas empêché de cuisiner un excellent fraisier qu'on va tous goûter.
Justement, parce que moi, le fraisier, je trouve que c'est un des desserts préférés des Français, mais il y en a rarement des bons, en fait. Parce qu'on en trouve souvent toute l'année dans les pâtisseries, et très figé. Avec ce côté, c'est normal, il faut que ça tienne plusieurs jours, donc c'est des crèmes pâtissières qui sont avec beaucoup de gélatine. Et en fait, là, ce que vous avez, et bon, ce qu'on n'a pas vu hors dans l'antenne, c'est qu'on a un fraisier qui
s'est fait un peu la malle.
Qui n'est pas trop figé. Voilà, c'est un fraisier libre, tout à fait, Zazie. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mélange de la crème chantilly avec de la crème pâtissière, donc ça fait une crème diplomate, et l'idée, c'est de très peu la coller, donc de le monter minute et de le servir pour avoir un dessert très frais et pas du tout lourd, avec des fraises, bien sûr, de saison.
C'est délicieux.
Ça change tout avec des bonnes fraises.
Alors, c'est long à faire, mais on est récompensé.
C'est long à faire, mais vous êtes sûr que quand vous l'amenez à table, vous êtes récompensé. Quand vous l'offrez à un anniversaire, vous êtes récompensé. Quand vous le mangez, vous êtes récompensé.
Bravo, hein, franchement, c'est excellent. Hein.
Oui, et la génoise, c'est du coup, vous l'avez imbibé avec quelque chose.
Ah oui, imbibé avec un sirop de fraise. En fait, j'ai récupéré toutes les queues de fraises et j'en ai fait un sirop, parce que justement, pour ne pas perdre.
Les collerettes, les queues de fraises.
Les petits chapeaux verts.
Et ça donne le goût de la fraise.
Ça donne un sirop que vous pouvez goûter,
et oui,
qui est concentré et qui permet vraiment d'aller au bout de la fraise.
Franchement, bravo. On peut même récupérer les collerettes des fraises. Ça, c'est un sacré truc. Merci, Céline Maguet. Loïc, un dernier tout petit mot. Je sais que vous avez la bouche pleine, mais beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous demandent les origines de la Charlotte, qui est souvent aux fraises. Hein.
Alors absolument, là, on peut, je pense, reconnaître que Antonin Carême, le grand pâtissier français, en 1815, invente la Charlotte moderne. Il y a des recettes plus anciennes, parfois on dit que ça vient d'Angleterre, mais je ne pense pas spécialement. On trouve des recettes de Charlotte qui n'ont rien à voir à la fin du XVIIIe siècle. Et la Charlotte actuelle qu'on connaît tous, c'est une invention d'Antonin Carême en 1815.
Ça, c'est un sacré truc quand même. Antonin Carême, inventeur de la Charlotte. Céline Maguet, on nous demande aussi ce qu'on fait avec, non pas les collerettes ou les queues des fraises, mais plutôt les fraises fatiguées.
Avec les fraises fatiguées, vous pouvez faire le sorbet qu'on a vu tout à l'heure, mais sinon, vous pouvez faire un petit crumble. Moi, je fais un crumble aux flocons d'avoine. Vous faites caraméliser les flocons d'avoine et vous les mettez dans votre appareil à crumble. Ça marche très bien. Et on les voit plus.
La bonne cuisine des fruits, on vous recommande ce super bouquin. Vous serez en dédicace à Paris ce mercredi. Toutes les infos sur franceinter.fr. À la page On va déguster, c'est aux éditions First avec les photographies de Quentin Tourbèze. Je l'ai bien prononcé. Et vous filez à Wheel of Green, dans le bois de Vincennes, où vous tenez un stand, hein, Céline.
Tout à fait, parce que j'ai aussi un bar à vin. Et donc je tiens un stand bar à vin et soft artisanaux.
Ça s'appelle
au cœur Soif, au cœur de Wheel of Green.
Allez retrouver Céline Maguet chez Soif. La semaine prochaine, nous serons à 6 jours de l'été. Nous allons préparer la cuisine des grandes vacances avec deux pâtissières inspirées qu'on adore dans cette émission. On fait le plein de recettes estivales avec nos amis André Zana Murat et Keda Black. Elvira Masson et Jérôme Gagnès seront à nos côtés. Salut à tous, à dimanche prochain si vous avez encore faim.